Bonjour à tous, il est 11h ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Bienvenue dans ce journal.
Karine Bellichat.
À la une de cette édition, alors que les rapatriements de supporters israéliens continuent depuis Amsterdam après les violences, la guerre se poursuit au Liban et à Gaza avec ce terrible décompte de l'ONU. 70% des personnes victimes dans l'enclave palestinienne sont des femmes et des enfants. Aux États-Unis, après la défaite cinglante de Kamala Harris, le camp démocrate tente de faire son autocritique. Pourquoi les classes populaires ne se sont pas mobilisées pour faire battre Donald Trump? L'électorat noir et latino n'a pas non plus choisi massivement de faire barrage au candidat républicain malgré ses invectives. Reportage à suivre. Enfin, le compte à rebours a commencé en France, au Sable d'Olonne. C'est demain que vont s'élancer 40 skippers pour un tour du monde sans escale et sans assistance. C'est un record. Malgré son immense succès, le Vendée Globe tente malgré tout de garder son authenticité. À Gaza, l'offensive israélienne se poursuit toujours. Encore ce matin, la défense civile annonce la mort de 14 personnes tuées dans deux frappes israéliennes, l'une sur une école, l'autre sur un camp de déplacés. Des civils très majoritairement victimes des bombardements. C'est ce que confirme l'ONU qui a enquêté minutieusement. Un long travail d'enquête du Haut Commissariat des Droits de l'Homme établit que près de 70% des victimes de la guerre à Gaza sont des femmes et des enfants. Un décompte effectué pendant les 7 premiers mois du conflit entre Israël et le Hamas. Nicolas Falaise.
Pour parvenir à ce chiffre, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a étudié les cas de 10 000 personnes tuées à Gaza de novembre 2023 à avril 2024. Avec une méthodologie rigoureuse, souligne l'organisation, qui pour documenter le sort de chaque victime s'est appuyée sur au moins 3 sources distinctes. Conclusion, femmes et enfants représentent 70% du total. Et les auteurs du décompte estiment que ce pourcentage est représentatif de l'ensemble des victimes de guerre dans l'enclave palestinienne. Cette proportion élevée de femmes et d'enfants correspond à la démographie globale de la bande de Gaza, ce qui indique que les civils sont bien plus touchés que les combattants des groupes armés palestiniens. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, voit dans ces chiffres une conséquence directe du non-respect des principes fondamentaux du droit international humanitaire. De son côté, la représentation israélienne auprès de l'organisation rejette ce qu'elle qualifie de conclusion absurde et fustige, je cite, « l'obsession du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour la diabolisation d'Israël ».
En Israël, où deux nouveaux avions sont encore affrétés aujourd'hui pour rapatrier les supporters, toujours présents à Amsterdam après les violences dans la nuit de jeudi à vendredi, Benjamin Netanyahou a demandé au Mossad d'élaborer un plan d'action pour prévenir les violences lors de futurs événements sportifs. Malgré les mises en garde israéliennes à ses supporters, aucun incident n'a été signalé en Italie, où l'équipe de basket de Bologne rencontrait l'équipe du Maccabi Tel Aviv. Aux États-Unis, la transition s'organise. Donald Trump a choisi sa chef de cabinet, première nomination en attendant sa prise de fonction en janvier. Côté démocrate, la grande introspection a commencé. Comment comprendre la large défaite de Kamala Harris? Les résultats confirment une rupture avec une grande partie des classes populaires et les communautés noires et latino, traditionnellement démocrates, n'ont pas massivement boudé le vote Trump. Comme dans le Michigan, par exemple, l'un des fameux états clés, comme Barack Obama l'avait remporté dans cet état du Midwest. Cette fois-ci, Kamala Harris l'a perdu. Abla Junaidi est allée à Détroit pour essayer de comprendre ce désamour. Reportage.
Dans le dernier épisode de son podcast, Bankole's Nation, l'éditorialiste de Détroit, Bankole Thompson, tire le bilan peu flatteur de la campagne de Kamala Harris. Si selon Bankole Thompson, le fait d'être une femme et de couleur a pu jouer contre elle au niveau national, Kamala Harris et le Parti démocrate ont surtout commis une erreur stratégique dans la capitale de l'État où le vote noir domine.
Elle n'avait pas de message sur l'économie et quand elle m'a parlé, c'était beaucoup trop tard. En revanche, elle a tout mis sur la question de l'avortement. Si ça peut être important pour moi, la plupart des gens ne pensent pas à ça. Ils se demandent s'ils pourront payer leur facture d'électricité, les 1 500 $ de prêt à la banque parce que les taux ont doublé. sujets. Au lieu de cela, les démocrates viennent voir la communauté noire et disent « voici les sujets qu'on veut traiter », au lieu d'écouter et demander ce qui préoccupe les gens. Ils ne prennent pas le vote des Noirs au sérieux. Ils continuent de penser qu'il leur est acquis. Et quand Donald Trump est venu à Détroit, les élites démocrates ont dit « bah, aucun Noir ne le soutiendra ». C'était une erreur tragique.
There's no chance. Nobody will support. Nobody black will support him. Well, that was a tragic mistake.
Pour Ben Cole Thompson, le Parti démocrate ne pourra pas faire l'économie d'une remise en cause profonde de son approche de l'électorat noir. Abla Junaidi, Détroit, RFI.
En France, le gouvernement avait choisi Marseille pour dévoiler un plan de lutte contre le crime organisé, le trafic de drogue, là où la guerre des gangs sévit. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice se sont affichés unis. Bruno Retailleau a parlé de pieuvre menaçant les fondements de la République. Didier Migaud d'une menace tentaculaire. Une cellule de coordination nationale au parquet de Paris va être mise en place avec des effectifs renforcés. Des annonces qui vont certes dans le bon sens pour le syndicat Alliance, mais tout repose sur les moyens déployés. Éric Henry, délégué national d'Alliance Police, joint par Aram Beng.
Ces mesures, ces annonces, dans le bon sens, il y a des mots forts d'employés. Combat national, submersion, guerre, des mots qui relatent un constat édifiant que nous ne pouvons que cautionner. Mais malheureusement, l'expérience nous fait penser que ce ne sera pas en corrélation avec les besoins et les moyens donnés. Donc des moyens financiers qui apparaissent toujours sous-dimensionnés et pas à la hauteur des ambitions et de la gravité de la situation. Si on veut être efficace, il faut en donner les moyens. Et Narco dispose de moyens colossaux, des moyens financiers hors normes, des moyens humains, des moyens technologiques. Pour lutter contre eux, il faut se doter des moyens similaires.
Mais une nouvelle fois, c'est le tout répressif qui est privilégié, ce que regrette Marie-Geoffrey Roustide. Elle est sociologue, spécialiste des politiques des drogues.
On parle des mesures liées à la répression du trafic. La répression du trafic, c'est un élément effectivement qui est important, mais on ne dit rien sur la question de la prévention de l'entrée des jeunes dans le trafic. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait aucune parole politique sur ces questions-là, qui de fait doivent également engager l'État. Sur la question de la consommation, ce serait important d'entendre des discours plutôt qui sont sur la prise en charge, la prévention des usages et également les mesures de réduction des risques. Toutes ces politiques qui, elles, ont été évaluées d'un point de vue scientifique et sont efficaces pour la prise en charge des personnes concernées.
Marie-Geoffrey Roustide, sociologue, chercheuse à l'INSERM, et elle était interrogée par Olivier Sherman. La météo s'annonce clémente pour le départ du Vendée Globe. Les skippers s'élanceront demain pour le mythique Tour du Monde en solitaire depuis les Sables d'Olonne. Ils prendront le départ à la mi-journée dans une ambiance qui sera plus festive que la précédente édition en plein Covid. Cette fois-ci, des centaines de milliers de personnes sont attendues pour assister au départ le long du chenal de 40 marins, un record de participants. Ils étaient 13 en 1989. Un changement de dimension pour une course de plus en plus populaire qui tente, malgré tout, de garder son caractère authentique. Au Sable d'Olonne, le reportage de Thomas de Saint-Léger.
Il a fallu s'armer de patience, plusieurs heures d'attente avant d'accéder au ponton, de voir enfin les marins et leurs bateaux. 40 monocoques rutilants d'un peu plus de 18 mètres de long, la flotte la plus importante de l'histoire du Vendée Globe. 40, chiffre maximum, arrêté à partir de 3 critères. Alain Leboeuf, directeur de la course.
Sécurité des marins, visibilité pour les sponsors et lisibilité pour le public de plus en plus nombreux à nous suivre.
Un public plus large aussi, séduit en partie sur les réseaux sociaux, où le marin d'aujourd'hui partage ses tranches d'aventure à coups de pastilles vidéo. Clarisse Kremer, deuxième participation au Vendée Globe.
Ça devient vraiment une grosse partie de notre métier, en fait, de rendre l'aventure moins égoïste, d'essayer de faire vibrer les autres, quoi, ceux qui n'ont pas la chance d'aller dans les endroits où on va.
Le Vendée Globe, c'est aussi un héritage, une certaine idée de la course entre performance et aventure, une authenticité à préserver pour l'expérimenter. Jérémy Bé.
Il faut faire attention à garder un côté unique à cette course. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un bon équilibre et pas de chercher prochain coup à être 50 au départ et à laisser les budgets s'envoler. Je pense que ça serait une erreur.
Pas de limite en revanche pour ceux qui feront le tour du monde. Sur leur canapé, c'est un autre révélateur de l'évolution de cette course. La simulation virtuelle du Vendée Globe fait un carton. Ils étaient plus d'un million à participer lors de la dernière édition. Thomas de Saint-Léger, Les Sables d'Olonne, RFI.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il est quasiment 11h10 ici à Paris. Restez à l'écoute de la Radio du Monde.